social signal. My brain's a busy signal. I guess it hurts a little. Let's just talk a little. Things we care about. You can be my middle, and we can breathe it out. I guess you need.
Radio G 101.5 FM. Il est 19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, l'émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer cette émission, Philippe et Sophie, bonsoir à vous deux.
Ravi de vous retrouver.
Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir à Pierre aussi, qui nous fait le plaisir d'être présent dans le studio. Voilà, dans cette émission, nous allons recevoir Nicole et Marie-Alix du CIDFF. Elles nous en diront plus tout à l'heure. Puis nous passerons en revue l'actualité. Dans la rubrique biographie, vous sera proposé un nouveau portrait des défenseurs des droits humains. Mais tout d'abord, Philippe, tu voulais dans ton éditorial nous parler des soulèvements populaires un peu partout dans le monde en ce moment.
Du Liban au Chili, d'Haïti à Hong Kong, en passant par l'Équateur, le Soudan, l'Irak et l'Algérie, les soulèvements populaires se multiplient et s'intensifient. Le Soudan a inauguré le cycle dès novembre 2019. Puis c'est l'Algérie qui s'est révoltée en février. Les manifestations au Chili, en Équateur ou en Bolivie se sont propagées en Colombie. L'Iran a rejoint la liste des pays confrontés à des insurrections le 15 novembre dernier. C'est ainsi qu'on a pu parler d'une mondialisation des révoltes populaires.
Et comment apparaissent ces soulèvements ?
Si le déclencheur est spécifique à chaque contexte national, les ressorts sont partout les mêmes et les modes d'organisation similaires. À chaque fois, des dizaines, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues. À l'origine, l'annonce d'une nouvelle taxe, l'augmentation du prix de l'essence ou des transports publics. Et ce qui frappe ensuite, c'est la vitesse de propagation et le caractère quasi insurrectionnel de cet embrasement. La contestation d'une mesure ponctuelle se change rapidement en un rejet global du pouvoir, synonyme de corruption. La portée morale de la contestation est aussi très puissante. On manifeste contre une économie injuste pour la possibilité de vivre dignement, ce que la vie chère, l'absence ou la détérioration des services publics rendent impossible. Et ces mouvements se sont vite radicalisés pour devenir même une contestation anti-système, comme on le voit en Algérie, en Irak ou au Liban.
Et qui sont ces manifestants ?
Ce sont souvent des jeunes citadins issus des classes populaires ou d'une classe moyenne précarisée dont les diplômes sont dévalorisés. Au Liban, en Algérie, en Haïti, la majorité de la population a moins de 30 ans. Les femmes jouent un rôle de premier plan dans ces manifestations, ce qui a contribué à renouveler les formes d'action. Les réseaux sociaux ont joué également un rôle essentiel dans la mobilisation. Les manifestants qui occupent les rues ou les places affirment leur autonomie comme source légitime du pouvoir. Ils inventent de nouveaux codes visuels et narratifs chargés d'humour et de références au street art ou aux cultures populaires. On l'a observé par exemple sur la place Tahrir à Bagdad ou bien au Chili avec l'hymne des femmes repris maintenant dans le monde entier. On peut aussi noter le caractère délibérément non violent des protestations en Algérie, en Irak ou au Soudan.
Et comment réagit en général le pouvoir ?
Les autorités réagissent par la répression, souvent brutale, au Chili, en Iran, en Irak, plus insidieuse en Algérie. Au Chili, Amnesty International a ouvert une enquête pour documenter les éventuels crimes du droit international commis par l'État. En Iran, le blackout sur le pays a permis aux gardiens de la mal nommée révolution d'assassiner en toute impunité. Amnesty, après avoir analysé de multiples vidéos, a dénombré la mort d'au moins 161 manifestants. Le soulèvement irakien, qui a déjà fait plus de 400 morts et des milliers de blessés, est entré dans son troisième mois. En Algérie, à l'approche de la présidentielle factice du 12 décembre, le régime durcit le ton et multiplie les arrestations arbitraires. Plus d'une centaine de manifestants sont en détention.
Alors quel peut être l'avenir de ces mouvements ?
Ces situations insurrectionnelles ont un point commun, c'est leur durée. Les foules soulevées ont une résilience admirable, nourrie d'un immense espoir. Mais la difficulté de ces mouvements, c'est qu'ils sont peu structurés politiquement. Ils n'ont pas de relais qui pourrait prendre la relève d'un gouvernement renversé par la rue. Pour l'instant, seul le peuple soudanais est parvenu à un accord, certes fragile, avec les militaires, sur un gouvernement de transition. En Algérie, la révolution du sourire, ou le Hirak, ce mouvement de contestation inédit, pacifique, solidaire, intergénérationnel et mixte, se poursuit avec détermination.
Alors, est-ce qu'on peut voir, à ton avis, des similitudes avec notre mouvement des Gilets jaunes ?
Il faut bien sûr être prudent et se garder de trop généraliser, mais il est vrai que cette révolte est partie, elle aussi, d'une hausse annoncée dans les carburants. Par ailleurs, elle a fédéré toute une population fortement précarisée et s'est rapidement transformée en contestation anti-système. La honte et la solitude ont fait place à la fierté de l'élan collectif. Face à ce mouvement inédit, la répression a été extrêmement brutale, comme l'a documenté et dénoncé Amnesty France. Il est certain que cet étonnant et détonnant éveil citoyen laissera des traces.
Merci Philippe. Vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Nicole et Marie-Alix, qui sont membres du conseil d'administration du CIDFF. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Pouvez-vous nous présenter votre association en quelques mots ?
Avec plaisir, nous sommes là pour ça. Voilà. Donc le CIDFF, je vais d'abord développer le sigle pour que vous compreniez bien. C'est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. C'est une association sur le Maine-et-Loire, mais tous les départements ont un CIDFF à peu près. Et il se trouve qu'ils sont fédérés en un réseau national qu'on appelle la Fédération nationale des CIDFF. Et il y a un échelon intermédiaire au niveau régional qui fédère aussi les CIDFF de la région.
Donc, quelles sont vos missions en général?
Alors, en général, oui, mais elles sont multiples.
Oui, je me doute.
On peut quand même les axer selon deux thèmes. Le droit et l'emploi. En ce qui concerne le droit, il y a l'accueil juridique qui se fait dans des permanences délocalisées dans le département et à Angers aussi. Il y en a 18 pour vous situer à peu près le maillage qu'il peut y avoir sur le territoire. Les permanences juridiques donc accueillent surtout sur les thèmes de la famille, du droit du travail et de quelques thèmes juridiques, mais surtout beaucoup le droit de la famille. Surtout les périodes de divorce, les périodes litigieuses et difficiles.
Est-ce que vous travaillez également à l'extérieur ? Est-ce que vous intervenez dans d'autres cadres que vos permanences ?
Absolument. Il y a notamment des informations qui sont faites auprès des élèves scolaires, universitaires, notamment sur les thèmes de l'égalité entre hommes et femmes, garçons et filles, pour les plus jeunes. Et effectivement, l'égalité, la citoyenneté et la laïcité sont des thèmes tout à fait abordés. Alors, concernant maintenant l'emploi, il y a l'accueil de femmes pour lesquelles une insertion est souhaitée et nous les orientons. Il y a les femmes dans le cadre du PLI, qui est le plan local pour l'insertion économique. Et ces actions pouvant être individuelles auprès des femmes ou pouvant être collectives, sous forme donc d'ateliers. Et divers ateliers peuvent avoir des thèmes très différents. Et il y en a un peut-être sur lequel on peut insister parce qu'il est original mais a toute son utilité. Il concerne le sport. C'est la formation tout au sport, l'action tout au sport. Et on s'est rendu compte que regrouper quelques femmes autour du sport, et notamment du kinball, ce qui est aussi un sport émergent et original, collectif, c'est la possibilité de leur donner confiance en elles et de lever certains freins qui les empêchent d'accéder peut-être à l'emploi à plus long terme. Donc c'est pour donner des exemples plutôt que de rester sur l'emploi, mais en réalité c'est très vaste. Nous avons aussi des actions et je pense que la période actuelle post-Grenelle et post-25 novembre, 25 novembre étant la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, justifie pleinement que l'on puisse parler de cette action, ces actions diverses que le CDFF mène. Donc le CDFF reçoit des femmes parfois et même souvent elles ne viennent pas directement pour parler des violences mais à travers les entretiens juridiques ou à travers ce qu'elles exposent lors d'entretiens par rapport à l'emploi les violences surgissent et sont donc prises en charge et accompagnées. C'est un sur le CDFF, le seul CDFF d'Angers, les chiffres sont importants, beaucoup trop, ça sera toujours trop important de toute façon, puisque 415 personnes victimes font l'objet d'accompagnement. Ce sont majoritairement des femmes, mais majorité écrasante, puisque c'est 98% des cas. 408 femmes donc se sont présentées et 7 hommes, mais il ne faut pas le négliger non plus, ça existe. La plupart de ces femmes ont été accompagnées, en réalité 343, ont été accompagnées au cours d'entretiens, au minimum 2 entretiens, mais voire davantage. Toutes sortes de problématiques tournent autour des violences, la prévention, comment faire, donc des formations aux gendarmes, aux policiers.
Vous allez dans les gendarmeries, les commissariats
Ils nous demandent de...
Ah, ils vous demandent.
Ils nous demandent de faire des
donc
formations.
Vous faites des formations à l'accueil.
Ça va se refaire.
Ah oui.
Oui, accueil, pour accueillir les plaintes, parce qu'il y a trop de plaintes encore qui sont sans suite.
Oui, mais est-ce que quand vous rencontrez justement les policiers, est-ce que vous avez, ou policières, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas suffisamment informés, sensibilisés, ou est-ce que vous avez l'impression que maintenant, quand même, vu l'horreur des chiffres qu'on connaît, ils commencent quand même à prendre conscience de la gravité de ce qui se passe?
Alors, mon impression, c'est que ceux qui sont formés le sont bien, et par contre, il y en a d'autres qui restent dans une situation un petit peu plus ancienne.
Ah oui, d'accord.
Oui.
Et est-ce que vous travaillez beaucoup en réseau ou avec d'autres associations?
Le réseau, bien sûr, c'est même extrêmement important. Surtout que ces femmes victimes de violences peuvent avoir la nécessité de trouver un logement rapidement. Et d'autres associations s'en occupent. Nous ne faisons pas l'hébergement. Nous, c'est l'accompagnement jusqu'au dépôt de la plainte.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous joindre s'il y a des personnes qui sont intéressées pour
prendre
contact avec vous?
Le siège social est pour le moment 35 rue Saint-Exupéry. Peut-être que le téléphone peut être communiqué.
Oui, vous pouvez le dire.
Le 02 41 86 18 04.
D'accord.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Oui, on se retrouve après une pause musicale.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Respeto y libertad,
libertad,
nuevo pacto social, que no haya desigualdad.
La paz, nuestra canción
es fuego de puro amor,
es paloma, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho.
Droit devant sur Radio G101.5 FM, vous venez d'écouter El Derecho de Vivir en Paz, une merveilleuse chanson de l'artiste chilien Victor Jara. Cette chanson écrite en 1971 est aujourd'hui devenue l'hymne des Chiliens en lutte contre l'oppression. Mais c'est l'heure maintenant d'écouter notre fameuse chronique, la fameuse chronique de Céline, notre veilleuse de halte d'urgence d'Angers, située au chemin de traverse. Vous verrez aujourd'hui, elle a choisi le sujet des femmes.
Bonsoir Valérie, bonsoir à toutes et à tous. La chronique du chemin de traverse de ce jeudi restera dans le thème de l'émission. Nous parlerons donc d'histoire de femmes. Depuis le début des veilles, nous les croisons à Rouchy tout d'abord, puis maintenant au chemin de traverse. Ce soir, j'aimerais qu'il reste des traces de leur passage et de leur existence. Alors, récoltées au fil des comptes rendus des soirées au 115, en voici quelques bribes. Fatou est arrivée du Sénégal avec ses trois enfants, 12, 10 et la petite de 2 ans. Samira et les garçons ont rendez-vous à la préfecture. Madame Tembo court après ses fils qui jouent au foot. Sarah est restée un an en Italie, un an à la rue là-bas pour recommencer ici. Elle est dublinée. Amina est mise dehors par sa tante. Son fils de 3 ans mange son assiette dans le coffre d'une voiture ouverte. Il pleut. Elle suit une formation, mais son petit budget ne lui permet pas de trouver un logement. Maïmouna nous explique que sa fille Linda entrera au collège. Elle attend la réponse du CIO pour la cadette. Adjé a mal aux dents. Elle vomit, n'a rien mangé. Nous laisserons, faute de solution, deux femmes seules qui dormiront dehors. Margot a donné naissance la nuit dernière à une deuxième petite fille. Nous avons attendu jusque 22 heures pour qu'on nous confirme que Sarah et Sophia ont bien une place pour cette nuit. On nous signale une jeune mineure que le conseil départemental a déclarée majeure. Le 115 vient de lui dire qu'il n'y a pas de place pour elle. Elle s'appelle aussi Nelly, Swad, Teber, Samira, Fanny, Soumaïla, Maëlys. Elles sont nos semblables, elles, les invisibles, les combattantes, les courageuses, les femmes de la rue. Alors gardons dans nos mémoires un petit quelque chose d'elle.
Voilà, allez, on se remonte le moral et on commence par les bonnes nouvelles. Tout d'abord en France, Sophie.
En janvier 2019, Pierre Mamber a été condamné pour aide à l'entrée irrégulière d'un étranger. Aujourd'hui, l'homme qui avait offert du thé à des personnes migrantes est relaxé. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé et de nombreuses personnes subissent un harcèlement, des actes d'intimidation et des attaques de la part des autorités en raison du soutien qu'elles apportent à des personnes migrantes et réfugiées. Il est cependant encourageant de voir que des tribunaux dénoncent cette application abusive de la législation.
Philippe, Victoire et Croisin, et pardon,